Bonsoir à tous, bienvenue au Bistrot des Ethnologues. Je vous prie d'excuser les quelques minutes que nous avons pris de retard du repas qui s'est un peu éternisé. Donc je voulais, comme il est d'usage, rappeler que le Bistrot des Ethnologues n'a lieu que grâce à des financeurs qui nous soutiennent depuis 18 ans. Bien sûr la mairie de Montpellier, le conseil général de l'Hérault, mais surtout la direction régionale des affaires culturelles, dont je remercie le représentant qui se planque derrière un poteau. Je voulais aussi remercier la laiterie qui nous accueille depuis quelques mois, depuis trois mois, depuis trois interventions, qui nous a permis d'avoir un nouveau lieu, comme vous le constatez. Mais aussi la librairie livrée, dont le représentant se trouve juste à côté du poteau. Là. Et aussi peut-être Divergence FM qui retransmet nos communications chaque mois. Alors, comme vous le savez aujourd'hui, nous accueillons Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Tous deux sont des sociologues rattachés au laboratoire IRESCO à Paris. Alors, vous savez, ils ont une œuvre importante derrière eux. Et ils n'en voulons pas de citer uniquement quelques travaux de recherche qu'ils ont réalisés. Mais je me suis permis d'insister sur la diversité de ces travaux pour montrer l'expérience qu'ils avaient de travailler sur les groupes sociaux. Par exemple, j'ai noté qu'en 82, ils avaient travaillé sur cohabiter groupes sociaux et modes de vie dans une cité HLM. En 86, ségrégation urbaine, classe sociale et équipement collectif en région parisienne chez Anthropos. En 89, dans les beaux quartiers, publié au Seuil. En 92, quartier bourgeois, quartier d'affaires chez Payot. En 2003, justice et politique, le cas Pinochet, aux éditions Syllapse. En 2003, la chasse à cour, ses rites et ses enjeux chez Payot. En 2006, Grande fortune, dynastie familiale et formes de richesse en France, publié chez Payot. En 2007, deux ouvrages, donc ce sont des sociologues qui publient beaucoup. Les ghettos du quota, bien sûr, ouvrage bien connu, publié au Seuil. Et la même année, Sociologie de la bourgeoisie, publié à La Découverte. Alors vous savez qu'en 2010, ils ont publié un ouvrage qui a connu beaucoup de succès. Le président des riches, enquête sur l'oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, donc sur lequel on ne va pas parler ce soir, puisque cet ouvrage a déjà été présenté à Montpellier, vous le savez, il y a quelques semaines. Nous avons, quitte à vous faire de la peine, invité plutôt Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson à évoquer un autre ouvrage, qui est celui que vous a montré Monique. C'est un ouvrage qui est sorti peu de temps avant l'autre ouvrage que je viens de signaler. Cet ouvrage s'appelle « Les millionnaires de la chance ». Il est sorti en 2010, d'ailleurs, quelques mois avant. Alors, ce travail a une forte dimension ethnologique, ce qui explique que nous avons privilégié, d'ailleurs. Et il est extérieur au champ de recherche sur la bourgeoisie, qui est un des thèmes privilégiés de nos deux sociologues, bien sûr, comme vous l'avez vu dans la bibliographie que je vous ai signalée. Mais il est extérieur à ce champ, mais cet ouvrage fait des allusions continuelles à la bourgeoisie ou des références. Alors, avec les gagnants du loto, on quitte le champ de ce qu'on appelle le domaine de la reproduction sociale, dont Bourdieu nous a parlé longtemps. Alors, il pose une question tout à fait singulière et intéressante, moi qui m'a d'ailleurs attiré quand j'ai lu ce livre. Que se passe-t-il quand il n'y a pas eu de socialisation ou d'apprentissage à l'usage de la fortune? Et c'est à cette question que vont répondre nos deux sociologues. Je vous laisse le micro.
Bonsoir, merci d'être là malgré le temps peu agréable pour venir jusqu'ici. Donc nous allons vous parler de ces millionnaires de la chance, plus précisément du loto, parce que nous avons travaillé sur les gagnants du loto. Comment est-ce que l'idée de travailler sur ce thème nous est venue? C'est que nous travaillions à l'époque, depuis une vingtaine d'années, presque sur les grandes fortunes, sur des fortunes plutôt héritées. Donc ce qu'on voyait très bien, ce qu'on avait bien perçu, c'est que être un héritier, ça s'apprend. Et il y a dans ce milieu beaucoup d'attention qui est accordée au fait que les enfants puissent prendre la relève après votre disparition. Donc il y a cette espèce d'apprentissage qui était très fort, un élément très fort de ce que nous avions découvert dans ces vieilles familles. Être riche, c'est pas évident, et on apprend à l'être. On apprend à l'être, c'est d'autant plus facile qu'on l'est par la naissance, bien entendu. Et donc, ceci étant, on s'est dit, on était à une fête du livre à Blois. Vous voyez, on travaille en équipe. C'est pour ça. Voilà. Donc à Blois, on était à une semaine du livre, enfin une fête du livre, et on fait un petit topo. Et dans ce topo, je dis comme ça ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, vous voyez, être riche, ça s'apprend et tout ça. Et on aimerait bien travailler sur des gens qui ont fait votre fortune très, très rapidement, par exemple sur les gagnants du loto, parce que ça doit être assez différent et on doit voir des choses en travaillant sur ce milieu. Et dans la salle, il y avait une collaboratrice de la direction de la Française des Jeux, qui, rentrant à Paris, en a parlé à sa direction, et finalement, ils nous ont téléphoné pour nous dire « ça vous intéresserait, nous aussi ». Donc, si vous voulez, on vous ouvre les portes, et on va vous permettre de travailler sur les grands gagnants du loto. Ce qui est un peu, pas tout à fait un billet, parce qu'ils ont défini notre échantillon. Ça a été les grands gagnants du loto, c'est-à-dire ceux qu'ils définissent eux-mêmes comme tels, à partir d'un gain d'un million ou plus. Pour être considéré comme grand gagnant par la Française des Jeux, il faut gagner au moins un million au loto ou plus. Et à partir de ce moment-là, la Française des Jeux assure un suivi de ces gagnants, c'est-à-dire d'abord en leur remettant leur lot, et par la suite en répondant à leurs appels s'il y a des difficultés, s'ils rencontrent des problèmes dans leur nouvelle situation. Et donc ils ont les adresses et ils suivent ces gagnants, du moins ceux qui se manifestent auprès d'eux par la suite. Et donc nous avons signé un contrat pour un travail auprès de ces gagnants, avec l'idée que, bien entendu, ce n'était pas l'ensemble des gagnants qui nous intéressait, c'était les grands gagnants, puisqu'il fallait qu'il y ait un bouleversement dans leur mode de vie pour que ça ait un sens. Parce que on travaillait beaucoup avec les concepts et la théorie de Pierre Bourdieu, avec la notion d'habitus, c'est-à-dire avec la notion de disposition apprise dans l'enfance, dans l'adolescence, surtout dans l'enfance, à partir du milieu dans lequel on vit, de l'environnement, etc. Des dispositions qui ensuite sont structurantes des pratiques, des manières de vivre, etc. Qui se construisent à partir du niveau de fortune aussi. Le niveau de fortune étant l'un des paramètres qui influe sur la personnalité dans la construction de cette personnalité dans la vie sociale. Pour prendre un exemple très rapide, si on habite Neuilly, par exemple notre président de la République l'a fait assez longtemps. Si on habite Neuilly, on a un rapport à la ville, un rapport à la société qui est assez spécifique parce que il y a un habitat très particulier, très 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 agréable, très confortable, avec de grands appartements. Il y a des commerces tout à fait spécifiques. Tout cela finit par former la personnalité, sans compter l'intervention du milieu familial, bien entendu, le milieu scolaire, etc. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on n'a pas été fait pour être un héritier, pour avoir de l'argent? L'appartenance, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour nous qui reprenons la notion de classe, de classe sociale dans le travail, dans l'analyse, il y a la classe objective qui, d'un coup, change. Lorsque vous gagnez 1 million, ce n'est pas encore extraordinaire, mais gagner 1 million, ce n'est pas un changement radical. Enfin, c'est un changement qui peut être très important, en particulier pour des familles modestes, mais ce n'est pas un changement absolument radical. Mais à partir de 5 millions, ça devient très, très, très important parce que, par exemple, enfin, mais c'est très important, on peut arrêter de travailler. C'est-à-dire qu'avec un patrimoine de 5 millions placé dans un portefeuille de valeurs mobilières, ça produit un rapport tout à fait suffisant pour vivre très confortablement. Donc il y a déjà ce paramètre qui change, qui fait qu'on peut arrêter de travailler. Il y a tous les autres aussi, bien entendu. Le champ des possibles est bouleversé et la totalité des repères qui sont les repères sociaux construits par l'éducation et par l'expérience sociale sont à changer. Alors la classe objective change, mais en même temps, la classe objective parce que l'une des dimensions qui définit cette classe objective, c'est-à-dire le niveau de fortune, ce paramètre change alors que le paramètre de l'habitus, c'est-à-dire les dispositions intériorisées, ne changent pas. Du jour au lendemain, ça ne change pas. Il y a une permanence, un effet de, comme disait Bourdieu, d'hystérésis, qui fait qu'il y a une résistance des dispositions intériorisées malgré les changements. Donc ce changement-là va vous faire basculer dans un autre champ social sans que vous ayez les moyens d'y être. Alors, comment est-ce que nous pensions travailler? Comment est-ce que nous avons travaillé concrètement pour cette recherche? Nous avons commencé par participer avec la Française des Jeux à l'accompagnement que la Française des Jeux accorde à ses grands gagnants. Et par exemple, nous avons participer aux ateliers pédagogiques de la Française des Jeux organisée à Vitrolles, là où il y a un centre de formation pour le personnel de la société et où il y a le centre de calcul très important de la Française des Jeux. Il y a maintenant des séances de formation pour les grands gagnants. Qu'est-ce que c'est concrètement? Sous une forme qui rappelle beaucoup les jeux télévisés, on a des séances où les animateurs apprennent aux gagnants qui sont là, qui sont venus volontairement, apprennent les méandres de l'investissement en bourse, de l'investissement de leurs gains. Ils leur apprennent aussi les règles de succession, parce que très vite les gagnants se posent les problèmes de la transmission à la génération suivante. Tout cela, ils apprennent aux gagnants un peu à maîtriser cette dimension. C'est un aspect important de l'intervention de la Française des Jeux, mais il y en a un autre, ce sont les groupes de parole. La Française des Jeux organise des groupes de parole dans lesquels les gagnants peuvent dire quels sont leurs problèmes, quelles sont les difficultés, échanger entre eux. Et ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que dans ces groupes de parole, il y avait un énorme plaisir de ces gagnants à être avec des gens qui se trouvaient objectivement dans la même position qu'eux. C'est-à-dire qu'ils partageaient avec eux le fait d'avoir gagné, donc de vivre un trouble dans leur existence et aussi avoir encore un problème pour dire qu'ils avaient gagné autour d'eux, dans la famille, dans le voisinage, dans le milieu de travail. Et donc il y avait dans ce groupe un effet très, très fort de recherche de l'entre-soi et de joie d'être entre soi. sont les gagnants se retrouvent isolés dans leur milieu habituel, dans le milieu familial, dans le milieu du voisinage et professionnel. Comment dire qu'on a gagné 20 millions d'euros ? Bon, c'est pas évident parce qu'il va y avoir des effets qu'ils supposent et qui sont réels d'ailleurs, avec leur entourage. Donc, quand ils sont entre eux, il y avait une joie qui nous a rappelé, très paradoxalement, ce que nous avions observé dans les grands cercles et les grands clubs parisiens, où il y a, pour ces personnalités de la haute société, très héritiers, très formés pour être riches et pour être là, mais il y avait un grand plaisir d'être entre eux, parce que dans la rue, éventuellement dans l'entreprise, dans les bureaux, ils sont toujours un peu différents. Ils sont ceux qui sont riches au-dessus, etc. Et ils ont un plaisir extraordinaire de se retrouver dans ces cercles et clubs, exactement comme nos grands gagnants étaient très heureux d'être entre eux pour échanger des informations, pour parler de leurs difficultés. Et voilà, pour ces histoires de groupes de parole. Alors, bien entendu, l'accompagnement que fait la Française des Jeux de ses gagnants est d'abord un accompagnement qui est d'ordre, disons, sociologique, social, et pas psychologique. Ce qui est en cause, c'est pas un problème de dépression ou je sais, c'est qu'il faut donner à ces gagnants une légitimité, qu'il faut dire que ils ont gagné, ils sont contents, mais en même temps ils sont gênés, mais il faut qu'ils assument ce gain. Et ce que dit, et je terminerai là-dessus, on reviendra dans la discussion sur tout ça, mais je passerai la parole à Monique. On a un différent. On vous demande 30 secondes, on va discuter. Et c'est vrai, et puis comme j'écris tout petit, j'arrive pas à le voir. Mais bon, ceci dit, ces grands gagnants, ce n'est pas une cellule d'aide psychologique comme quand il y a une catastrophe, bien que ça y ressemble, mais c'est surtout de leur donner socialement assez d'assurance pour qu'ils puissent profiter de leurs gains. Voilà la logique de la Française des Jeux, on peut en discuter d'ailleurs, mais ce qui nous intéressait, nous, et j'espère que malgré l'expression orale approximative, parce que c'est pas mon truc, ce qui est vraiment ce qui prouvait notre le fait qu'il ait été judicieux de faire cette étude, c'est qu'effectivement, il y a, avec le changement d'un des paramètres sociaux des individus, un tel bouleversement que toute la formation qui a été la leur et qui est très diverse, qui vient de différents horizons, cette formation est à reprendre et leur rapport au monde est à reconstruire. Ce qui est à reconstruire, c'est l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et l'image qu'ils ont sans doute de leur place dans la société. Je terminerai là-dessus.
Alors, donc je poursuis. C'est vrai que les journalistes, les classes moyennes intellectuelles, nous tous, on a tendance à se représenter le gain soudain des millions d'euros qui vous tombent comme ça, comme un vrai malheur, comme une catastrophe. On pense souvent que l'argent fait plutôt le malheur et que... que les grands gagnants vont plutôt péter les plombs. Hein, c'est dans les médias, très souvent, on vous représente les grands gagnants du loto comme ça. De la même manière, on vous représente les familles héritières riches depuis plusieurs générations comme des fins de race, comme avec des tas de mariages ratés, une descendance qui suit pas. Bref, on essaye toujours de faire de nécessité vertu, que chacun se contente au fond de sa petite place dans la société et de son petit salaire à quelques 1 000 euros et plus. Or, ce que nous avons constaté avec cette enquête, c'est qu'au fond, chaque millionnaire du loto, chaque grand gagnant, s'approprie son gain en fonction de son habitus, en fonction de sa position de classe. Et ça, c'est assez fort comme résultat d'enquête. C'est-à-dire que si l'on est, par exemple, je vais prendre l'exemple de Jean Bernard. Jean Bernard, qui est fils de paysan, qui ensuite fait quelques études, passe un CAP, devient cuisinier à l'ONU à Genève et gagne en 1988, c'est un ancien gagnant, un vieux gagnant, gagne je ne sais combien de millions de francs. Quelque chose d'énorme à cette époque. Et lui, comme fils de paysan, n'a qu'un seul rêve avec son gain, c'est ne plus travailler et se réfugier au plus haut dans la montagne, le plus loin possible, dans le chalet le plus isolé possible, avec des chèvres, des moutons et quelques autres bêtes, sans toucher son argent, qu'il place pourtant, parce qu'il était pas bête, enfin je veux dire, il avait bien les pieds sur terre, l'argent est placé, et il part vivre en autarcie complète. Il avait son bois, il avait ses bêtes, pendant 7 ans, il vit complètement seul en haut de la montagne, au-dessus d'Abondance. Et puis, il commence à avoir quelques ennuis avec les agriculteurs du coin qui ne comprennent pas que ce milliardaire vive comme ça, sous leurs yeux, de façon parfaitement heureuse, sans toucher à son pactole. Et malheureusement pour lui, on commence à lui tuer, à lui voler un certain nombre d'animaux, de façon en quantité suffisante, 47 moutons, pour qu'ils vivent cela mal et prennent la décision suivante. Eh bien, puisque je suis riche, parce qu'il a gagné en 88, donc en 96, quand lui arrivent tous ses ennuis, pendant ce temps-là, la bourse a flambé et son argent a fait des profits à 2 chiffres. Donc, il se trouve encore plus riche qu'il n'était au moment de son gain. Et à ce moment-là, il se dit, puisqu'on m'emmerde, que moi, je veux vivre ma vie et qu'on me fait des ennuis, eh ben maintenant, je vais être riche, anonyme, au milieu des riches, et je vais m'acheter le plus beau chalet de Megève et vivre tranquillement à Megève. Et ce qu'il y a d'intéressant, nous, on est allé l'interviewer à Megève, on a passé quelques jours avec lui. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est vrai qu'il a un avion, qu'il conduit son avion, qu'il a un chalet énorme, mais ce chalet, il est arrivé à le transformer en ferme. C'est-à-dire que on rentre dans le chalet et immédiatement, on est surpris par la taille d'un énorme géranium qui a pris racine dans le plancher. Et moi, comme je ne savais pas qui on allait voir, enfin, j'avais mis des petits talons aiguilles et j'arrive sur la terrasse et sur la terrasse en bois, il y avait des trous de partout et je tombe dans un des trous. Bref, accident du travail, pas trop grave. Ce grand gagnant aussi ne jette rien, comme chez les agriculteurs, on ne jette rien, de telle sorte qu'il y a une espèce de bordel invraisemblable dans toutes ces pièces. Il y a une dizaine de pièces, c'est un chalet énorme. Et voilà, il y a son linge qui pend partout. On a l'impression d'être à la ferme. Et donc, ce gagnant, au fond, a intériorisé son gain dans un premier temps pour vivre le rêve de ses parents, de ses grands-parents, être dans la nature, être au milieu des animaux, mais sans les soucis de la gestion de la ferme. Et dans un deuxième temps, il a transformé ce chalet de Megève véritablement en une ferme, avec toute la mémoire de sa famille. Voilà. Un autre exemple qui est à l'opposé, c'est un couple de cadres supérieurs déjà très riches avant leur gain. Ils sont déjà tous les deux assujettis à l'ISF. Ils ont l'habitude de beaucoup voyager à travers le monde. Ils ont déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Ils ont un très bel appartement dans Paris. Et voilà qu'ils gagnent 7 millions d'euros. Et ces 7 millions d'euros ajoutés à tout ce qu'ils avaient déjà acquis, plus les 5 millions d'euros de leur portefeuille de valeurs mobilières, ils décident d'arrêter de travailler. Et voilà un couple qui est toujours dans le secret aujourd'hui, c'est-à-dire que même les parents d'elle et de lui ne savent pas qu'ils ont gagné, ils ne l'ont dit strictement à personne. Dans notre livre, ils ont un anonymat absolument verrouillé. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans leur histoire, c'est que le gain a été complètement approprié dans leur habitus de classe, dans leur mode de vie, au point que personne ne s'est aperçu qu'ils s'étaient arrêtés de travailler. Personne ne s'est aperçu du changement. Voilà. Donc un gain qui vient donner un petit coup de pouce à un mode de vie qui était déjà très aisé, et qui devient non seulement aisé, mais extrêmement heureux. Nous avons rencontré un couple heureux. Un autre exemple de cet apprivoisement, de cette appropriation du gain dans l'habitus de classe, dans le mode de vie, dans la socialisation du gagnant, c'est l'histoire de Patrice Gerbeau. Là, ça n'est pas un pseudonyme parce qu'il assume complètement son gain. C'est un ouvrier menuisier du Cher qui a gagné 27 millions d'euros à Euromillions. C'est un fils de milieu extrême, un enfant de milieu extrêmement modeste dont les parents étaient très engagés à gauche. Le grand-père, ses grands-parents étaient communistes, très engagés dans la résistance. Et depuis tout petit, il participait avec ses grands-parents et son père à des chasses collectives, des chasses communales sur des terres communales, avec plein de copains de classe scolaire et de classe sociale. Et puis, il gagne 27 millions d'euros. Eh bien, c'est une somme énorme. Il gagnait 1 800 euros par mois comme ouvrier menuisier. Et puis, eh bien, cet homme est arrivé à s'approprier ce gain en achetant les meilleures terres cynégétiques du Cher et de Sologne, qu'il allait débaucher des aristocrates qui possédaient des bonnes terres pour chasser et leur dire « je voudrais vous acheter vos terres pour le prix que vous me fixerez ». Donc il a acheté des terres, il a créé des relais de chasse qui sont devenus ses châteaux. Et il invite à ses journées de chasse toujours ses copains de classe scolaire, et ses copains de classe sociale. Et ce sont des centaines de personnes qui participent à ces journées. C'est un véritable communisme en acte. C'est quelque chose de très fort, de très beau, de très chaleureux, d'extraordinaire. Un collectivisme qui nous a rappelé avec Michel, le collectivisme de la grande bourgeoisie, où c'est vrai que dans la grande bourgeoisie, du fait des niveaux des fortunes et des richesses, on est, contrairement à ce que l'on pense communément dans les classes moyennes intellectuelles, où décidément on a toujours tendance à faire de nécessité vertu, on est, lorsqu'il y a beaucoup de richesses, très vite dans le collectivisme, dans le partage, dans le don et le contre-don. Et Patrice Gerbeau, bien que n'ayant pas fait d'études, est arrivé à intégrer ce gain dans un partage absolument exemplaire. Donc je vous invite à lire vraiment toutes ces histoires. Est-ce que j'ai le temps d'en raconter laquelle tu choisirais ? Alors je regarde le... Ah si, les dockers. Ah oui, non, là, l'histoire est trop belle. Alors, elle est proche de celle de Patrice Gerbeau. C'est une famille qui gagne 15 millions d'euros et ils sont 5. le papa docker, la maman, la femme du papa docker, le fils docker, la femme du fils docker, la sœur du fils docker, donc j'arrive à 5, hein, 5. Et donc, il gagne 15 millions d'euros. Il décide de partager pile en 3, en 5, donc 3 millions d'euros chacun. Et alors, eux, c'est extraordinaire parce qu'ils sont restés, malgré une telle somme d'argent, alors qu'ils gagnaient en tant que docker, ils gagnent pas mal. Mais pas mal, ça veut dire 3 000 euros pour des métiers extrêmement durs, extrêmement risqués sur le plan physique. Et ces dockers restent dans le lotissement où nous les avons interviewés, une petite maison modeste, mitoyenne, avec d'autres, où, voilà, enfin, dans un état de promiscuité sociale assez important. Ils font des travaux, soi-disant ils sont dans le secret, mais les travaux, vous verriez la cuisine, c'est devenu un espèce de laboratoire du CNRS, tellement c'est impressionnant de technologie, de voilà. Et puis, à l'extérieur des maisons de ces familles de dockers, il y a des camping-cars incroyablement confortables, blancs, énormes, parce que c'était une famille qui avait l'habitude de camper. Et donc, au fond, leur rêve comme campeur, eh ben, c'était d'avoir un camping-car. Et donc, le père s'est acheté le camping-car le plus luxueux qu'on puisse imaginer. Et le fils s'est acheté aussi un camping-car tout à fait luxueux. Ils n'ont pas changé de maison parce que leurs petits-enfants leur ont dit « Mais si vous déménagez, nous qui avons grandi dans ces maisons, on n'aura plus l'histoire de la famille. » Et comme ce sont des dockers qui se transmettent de père en fils une véritable identité professionnelle, qui est aussi une identité de vie, une identité familiale, une identité humaine extrêmement profonde, eh bien, ils ont décidé de rester dans leur lotissement. Voilà un autre exemple. Et quelquefois, c'est difficile. Là, j'ai donné des exemples qui sont assez beaux, finalement. Et je pense à cet agent d'entretien et à cette femme de ménage qui ont gagné 3 millions d'euros et qui, pour ces 3 millions d'euros, ont voulu se faire construire une maison. Ils étaient logés en HLM et dans cet HLM, quand on a su qu'ils avaient gagné, on ne leur disait plus bonjour et quand on leur parlait, c'était pour leur dire « Ah, on voit bien que vous êtes tombés en bourgeoisie ». Alors, tomber en bourgeoisie, c'est extraordinaire comme expression. Et donc, ils ont voulu quitter leur HLM, partir au plus vite et se faire construire une maison avec piscine, parce que ça fait partie la maison, la piscine et le 4x4. C'est vraiment les trois gros piliers du gros gagnant. Mais quand on n'a pas du tout d'éducation, quand on a eu la vie difficile tout le temps, c'est pas si facile que ça, que de se faire construire une maison avec une piscine. Parce qu'ils avaient toujours l'impression que les entrepreneurs essayaient de les voler. Ils n'arrivaient pas à dominer la situation. On les sentait dans l'embarras. Le monsieur, l'agent d'entretien, il a voulu aller s'acheter une BMW. Alors il rentre, c'est pratiquement peu de jours après avoir gagné, il rentre dans le garage BMW de sa petite ville, et là, le bonhomme qui est en face de lui, lui dit tout de suite, pour les occasions, c'est à gauche. Voilà. Alors, il a été furieux qu'on lui dise, pour les occasions, c'est à gauche. Donc, il est allé en face au garage Mercedes, où il a acheté une Mercedes tout à fait rutilante. Et il avait beaucoup de plaisir, nous a-t-il raconté, à passer devant le garage BMW en klaxonnant. Voilà. Donc, voilà un petit peu des portraits rapidement brossés. Qui montre bien qu'on est très loin du schéma intéressé que comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Dans une société où l'argent est le nerf de la guerre, dans une société où les rapports de domination, où les rapports sociaux les plus violents, les plus profonds sont marqués sous le sceau de l'argent, eh bien oui, quand on a de l'argent, ça se passe plutôt mieux que quand on n'en a pas. Et c'est valable avec l'éducation des héritiers Et peut-être, grâce à l'accompagnement collectif de la Française des Jeux, ça se passe très bien, plutôt très bien, pour les gagnants, même d'origine modeste, parce qu'au fond, ils ont cette intelligence, finalement, ce bon sens pratique, de se dire « Ok, je deviens riche, mais je vais devenir riche avec mes valeurs ». Et au fond, on est là face à des oiseaux qui se contentent de déployer leurs ailes et de voler dans toute la plénitude d'un ciel sans nuages. Ou bien, on pourrait dire, ce sont comme des poissons qui, tout d'un coup, se retrouvent vraiment comme des poissons dans l'eau. C'est-à-dire, ils peuvent vivre les valeurs de leur éducation, que cette éducation soit une éducation populaire, que cette éducation soit une éducation moyenne, intellectuelle, soit une éducation plutôt grande bourgeoise pour le couple exceptionnel dont je vous ai parlé. Et voilà, on intègre le gain dans les valeurs qui vous ont construit. C'est ça le résultat essentiel de cette enquête qui ne concerne que les gagnants du loto et pas du tout les autres jeux de la Française des Jeux. Donc je vous remercie et puis place à la discussion si vous le souhaitez.